France Inter, Laetitia Gaillet, le 6-9 de l'été.
Et le grand entretien. Bonjour Xavier Pascaud.
Bonjour.
Xavier Pascaud, directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique. La ministre de la Défense, Florence Parly, a dévoilé hier donc la nouvelle stratégie de la France en matière de défense spatiale. Il y a pêle-mêle la création d'un grand commandement de l'espace basé à Toulouse avec 220 personnes sous l'autorité de l'armée de l'air, des moyens supplémentaires pour pouvoir riposter en cas de menace avec des lasers, des nanosatellites patrouilleurs. Alors vous nous expliquerez tout ça. Mais vous dites quoi, vous, ce matin, Xavier Pascaud ? Il était temps ?
Ouais. C'est-à-dire que ça traduit effectivement une adaptation à un environnement qui a beaucoup changé. Ça traduit une double évolution en fait. D'abord une prise de conscience ces dernières années que l'espace est important pour les opérations militaires françaises. Alors ça, on s'en est aperçu parce qu'on mène des opérations à l'extérieur et on se rend compte que l'espace est absolument vital pour que ces opérations soient menées. Et donc la prise de conscience a conduit au fait que tout le monde est d'accord pour protéger désormais les satellites face à un environnement qui lui est en évolution très très rapide. Alors pourquoi en évolution très rapide ? Bien, on voit que on va avoir des milliers d'objets de plus en plus petits, de plus en plus mobiles, manœuvrants, etc. Et alors l'espace devient de moins en moins lisible. Et donc il y a une sorte d'effet de cisaillement, si vous voulez, avec d'un côté une sorte de très forte évaluation de l'intérêt des systèmes nationaux. Avec d'un autre côté une confrontation avec un environnement qui se transforme. Et donc, finalement, ce discours d'hier manifeste la volonté d'adapter l'organisation à ces nouvelles conditions, en fait.
Mais alors, vous avez globalement brossé ce qu'a dit Florence Parly, ou en tout cas l'idée de la stratégie. Mais en quoi l'espace est devenu vraiment stratégique ?
Alors, l'espace a toujours été stratégique, j'allais dire.
Oui, mais là, maintenant, qu'est-ce qui se passe ?
Maintenant, en fait, l'espace est de plus en plus employé par les acteurs militaires. Ce qui n'était pas nécessairement le cas dans les années 60-70. L'espace était absolument majeur, notamment pour équilibrer la relation entre les États-Unis et l'Union soviétique, la relation nucléaire. Il y avait cette relation de dissuasion mutuelle et l'idée c'était de s'observer. Et donc l'espace était sanctuarisé parce que personne n'avait intérêt à ce que les satellites soient détruits. Finalement, ça, c'était une forme d'assurance-vie finalement pour les deux grandes puissances. Et puis, au sortir de la guerre froide, eh bien les États-Unis, les premiers et puis les autres, ont de plus en plus employé leurs systèmes spatiaux pour mener leurs opérations militaires. Et ce faisant, ils ont transformé leurs satellites en cibles potentielles. Et à partir de là, les stratèges militaires ont commencé à réfléchir à la manière de protéger ces satellites. Et ça, c'était un peu nouveau, finalement. Et on voit un peu l'aboutissement de ça. Et la France, finalement, prend acte du fait que les États-Unis, la Russie, la Chine, peut-être l'Inde demain, sont en train de modifier beaucoup leurs équipements et leur manière de faire.
Ça veut dire, Xavier Pascaud, qu'il y a un siècle, on était à l'aviation, on s'intéressait au-dessus des sols, et que là, on passe à l'étage supérieur.
Voilà. Alors, avec aussi le progrès des technologies, en fait, l'espace aujourd'hui est devenu incontournable pour collecter des données, pour les transmettre, pour les retransmettre sur le terrain. Aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs pour les militaires ou pour les sociétés en général, l'espace est devenu une infrastructure vitale, en fait.
Mais c'est quoi la menace ?
Alors, la menace, elle est de deux ordres en réalité. D'abord, il y a des risques. Simplement, l'espace est de plus en plus, on va dire, pollué par des débris. L'activité humaine depuis plus de 50 ans dans l'espace a produit des débris, et ces débris sont extrêmement dangereux pour les systèmes. Donc aujourd'hui, il y a des risques plus importants de voir vos satellites tomber en panne de manière inopinée, sans savoir si finalement ça a été une collision avec un débris, ou éventuellement une manœuvre hostile, quelque chose qui vient brouiller, par exemple, vos signaux, etc. Cette incertitude, aujourd'hui, est comme un complètement prise en compte, et ça c'est très très nouveau.
Mais concrètement, une menace c'est quoi ? C'est-à-dire que, concrètement.
Concrètement, on peut avoir des collisions par exemple.
Collisions, j'ai bien compris, mais quand on parle de menaces...
Alors absolument, vous avez l'exemple récent par exemple du tir indien, l'essai indien qui a été fait en mars dernier, qui a utilisé un missile pour détruire un de ses propres satellites. Alors ça c'est un message qui était envoyé aux grandes puissances spatiales, notamment à la Chine sans doute, pour expliquer qu'elle avait les moyens, l'Inde, de détruire si elle le voulait un satellite qui passait au-dessus de son sol par exemple. La Chine avait fait ce même test en 2007. Les Russes, les Américains l'ont fait bien avant et l'ont répété récemment. Et donc finalement, vous avez une tension un petit peu plus forte. L'espace aujourd'hui est traversé de tensions diplomatiques de plus en plus fortes. Il y a des enjeux économiques, des enjeux industriels et des enjeux militaires. Vous avez aussi, par exemple, la possibilité avec un laser de brouiller, par exemple, en visant un satellite d'observation, de brouiller son optique, de brouiller ses capteurs, voire même de les endommager gravement. Et puis, puis vous avez par exemple, alors ça se pratique beaucoup, le brouillage électromagnétique, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, vous n'arrivez plus à communiquer avec vos satellites, vous n'arrivez plus à recevoir les signaux.
Vous voulez dire que, par exemple, l'espionnage, ça fait partie de cette menace et qui passe par le ciel, en fait.
Oui, c'est ça. Mais ça, l'espionnage, par exemple, c'est, j'allais dire, depuis le début de la militarisation de l'espace, qui date des années 60, en réalité. Les premiers satellites d'observation ont été construits à des fins militaires pour surveiller dans des endroits où on ne pouvait pas envoyer d'avions. De la même façon, on a des satellites d'interception électromagnétique qui interceptent les signaux pour essayer d'espionner ce qui se passe.
Alors, Xavier Pascaux, pour revenir concrètement à ce qu'a dit, à ce qu'a annoncé Florence Parly hier, elle a annoncé plus de moyens, elle a annoncé aussi le renouvellement complet des capacités satellitaires françaises, un haut commandement. Est-ce que tout ça, pour vous, concrètement, on va dans le bon sens ?
Je pense que effectivement, ça donne un signal quand même. D'abord, ça donne un signal politique. On est effectivement dans un environnement où les tensions sont fortes, sont devenues fortes, et on a besoin d'une posture un petit peu annonçant une forme de dissuasion. On essaye de dissuader toute manœuvre hostile finalement de la part de tel ou tel pays, en disant bah, écoutez, maintenant on se protège, d'abord on va mieux savoir ce qui se passe. Alors ça, c'est un point très important dans le discours de la ministre, c'est ce qu'on appelle la situation spatiale. On va savoir, alors ça c'est compliqué aujourd'hui, on a des moyens de savoir quels sont les objets qui passent au-dessus de nos têtes, mais pas tous, ils deviennent plus petits, donc on a besoin de savoir mieux ce qui se passe, il va y avoir de l'investissement là-dessus. Et puis éventuellement, et ça c'est la nouveauté quand même dans ce discours, eh bien il y a une annonce qui dit eh bien éventuellement on sera capable de rétorsion. Voilà, et donc il y a une posture un peu dissuasive.
Voilà, c'est ça. Alors on est dans une position défensive, mais pas offensive.
Alors ça, la ministre a beaucoup insisté sur ce point, en disant effectivement que les programmes qui seraient capables de permettre d'agir dans l'espace ne sont pas conçus à des fins offensives, donc c'est pas, je veux dire, il n'y a pas de premier emploi, on va dire, mais en revanche, seraient capables d'agir si nécessaire, c'est-à-dire si notre satellite, par exemple, de télécommunication Syracuse, était soumis à des brouillages, ou voire éventuellement à une interruption par un système voisin, par exemple.
Alors, parmi les moyens défensifs, il y a des choses, on a l'impression que c'est la guerre des étoiles, mais un laser, brouilleur, des mitrailles, des tirs possibles.
Voilà, alors, effectivement, ce qui a été évoqué surtout dans le discours de la ministre, c'est le laser. Moi, j'ai pas entendu les aspects mitrailleuses, etc., mais j'ai vu ça effectivement dans la presse aussi, ouais. Apparemment, ça a été évoqué. Alors, bon, il y a tout un tas de systèmes. Globalement, aujourd'hui, ça reste quand même beaucoup de recherche et de développement. Tout ça n'existe pas nécessairement, j'allais dire, dans les cartons, mais en tout cas, ou prêt à être réalisé. Mais on voit bien qu'effectivement, dans ces domaines aussi, les progrès technologiques ont été très important. Donc aujourd'hui, on peut imaginer sans doute des lasers, c'est ce qu'a expliqué la ministre hier, embarqués sur des satellites qui seraient des satellites un peu ange gardien finalement, d'autres satellites importants et qui pourraient, le cas échéant, détruire une optique par exemple d'un satellite voisin ou quelque chose comme ça, qui irait inspecter nos satellites ou l'espionner.
Au-delà des annonces, la France joue quoi ici ? Son autonomie, sa puissance ?
Oui, alors il faut d'abord se rappeler que la France, dans le contexte européen, est la seule véritable puissance spatiale militaire. Il y a quelques satellites utilisés à des fins militaires en Allemagne, en Italie notamment, mais pas à ce point. Pourquoi ? Parce que la France a elle-même une politique militaire, notamment en termes d'opérations extérieures, et repose beaucoup sur ses systèmes satellitaires. Donc finalement, l'espace, c'est un reflet de la posture stratégique générale et de la posture militaire générale. Et c'est vrai que dans le cadre européen, la France est beaucoup plus en pointe sur ces sujets parce qu'elle a elle-même une posture de défense plus active. Intervient en Afrique, au Mali, etc. Le Mali, par exemple, c'est un bon exemple. Grande surface, énorme surface à couvrir avec des informations à collecter de manière régulière. Et ça, seul l'espace peut le faire, en tout cas, de manière très très importante, avec en complément des capteurs aériens ou d'autres choses. Mais donc, on voit bien que le besoin est là. Et c'est ça, en fait, qui fait la différence avec les autres pays européens. Donc, pour la France, oui, c'est un enjeu. Il y a aussi un enjeu industriel, évidemment, et technologique. C'est-à-dire qu'un investissement public dans ces domaines de recherche de pointe, finalement, c'est aussi une manière d'avoir une industrie qui fonctionne bien. On le voit avec Ariane, on le voit avec l'industrie satellitaire. C'est aujourd'hui une industrie qui est soumise à une concurrence très forte, et donc ça la soutient également.
Mais on a l'impression, Xavier Pascaux, que il y a des moyens qui sont déployés, mais au regard des milliards américains, des milliards chinois, des milliards russes aussi, ça fait un petit peu petit, quoi.
Alors, d'abord, il faut se rappeler qu'on n'a pas énormément de satellites gouvernementaux en orbite. On en a une douzaine, une petite quinzaine. Les Américains, rien que pour les satellites militaires, c'est 150 satellites en orbite. Les Chinois, une quarantaine. Les Russes, une trentaine. On n'est pas tout à fait dans la même cour. Bon, dans le spatial, vous savez, il y a deux planètes. Il y a la planète américaine, ce sont beaucoup de milliards, beaucoup de moyens, beaucoup de personnes qui travaillent. Et puis, il y a le reste du monde, je dirais. On est quand même pas ridicule, mais surtout précisément parce qu'on a peu de satellites, on souhaite vraiment les protéger. Ce sont des choses qui coûtent cher à l'échelle de la France. Ce sont des choses qu'on essaye aussi de faire soutenir par l'Europe. Et donc tout ça est cohérent d'une certaine manière parce que bien ce qui est rare est cher. Et d'une certaine manière, on n'a pas la capacité que peuvent avoir les États-Unis à remplacer, par exemple, des choses détruites.
C'est la question que je voulais vous poser, Xavier Pascaux. Et l'Europe, dans tout ça, on l'a un petit peu esquissé, mais l'Europe, la France a besoin de l'Europe, là.
Absolument. De toute façon, ces sujets... Alors, c'est toujours la difficulté et la tension un petit peu compliquée de ces sujets. C'est-à-dire que la France a les idées, a le besoin d'aller vers ce type de moyens et doit convaincre ses alliés européens et ses partenaires européens, mais que ce qu'elle fait pour elle, elle le fait aussi pour l'Europe. Et ça, évidemment, ça ne passera de toute façon que par l'acceptation par nos partenaires européens qu'une politique de défense française participe de la défense européenne. Donc ça, c'est toujours très compliqué, que ce soit pour l'espace ou que ce soit pour d'autres investissements majeurs. Alors, il y a aussi une singularité française, c'est que nous avons la dissuasion nucléaire. Et l'espace en France est né aussi du fait que cette dissuasion nucléaire imposait d'avoir un certain nombre de moyens qui ont, par exemple, conduit au programme Helios, premier programme d'observation. Alors ça, évidemment, nos partenaires européens, italiens, allemands, n'avaient pas les mêmes besoins. Donc il y a toujours ce besoin de reconstruire politiquement les justifications et les raisons de travailler ensemble. Mais la France ne pourra rien faire sans l'Europe.
Est-ce que ce sera suffisant, là, ce qui est annoncé?
Bon, c'est déjà, disons, bon, par exemple, l'un des défis, c'était vraiment de mettre à niveau la capacité française à détecter des systèmes en orbite. Ces systèmes vont être, vous savez, un satellite, avant c'était plusieurs tonnes. Aujourd'hui, c'est quelques kilos, simplement, c'est la taille d'une boîte à chaussures. La ministre, d'ailleurs, l'a cité. Et on voit ces systèmes se multiplier. Ils sont évidemment low cost, comme on dit aujourd'hui, beaucoup moins chers, donc beaucoup plus accessibles, donc beaucoup plus utilisés. Si vous n'avez pas les moyens de voir ces engins-là, qui eux-mêmes sont très performant parce qu'on aura de l'intelligence artificielle, enfin, tout ça évolue très vite, eh bien en fait on est très vite déclassé. Donc la mise à niveau par exemple de la connaissance de l'espace, des moyens de surveillance de l'espace est absolument impératif. Là on va avoir quand même une capacité, alors ce qui a été cité je crois c'est de voir un satellite d'une taille de boîte à chaussures à 1500 km d'altitude. Ça, si vraiment cette performance est atteinte, c'est de très très bon niveau.
Xavier Pascaux, on va passer aux questions des auditeurs avec beaucoup de questions sur l'application France Inter. Vous pouvez aussi appeler au standard au 01 45 24 7000. Xavier Pascaux, il y a Nicolas qui pose cette question. À quand une armée du cyberespace? Parce que là, effectivement, on est sur la défense spatiale. Est-ce qu'on ne va pas aller plus loin à un moment donné?
Alors, pour ce qui est du cyberespace, il y a déjà un commandement cyber. En fait, le commandement espace, le commandement de l'espace, emboîte un peu le pas à la création de ce commandement cyber qui a été créé il y a quelques mois. Après, le cyberespace et l'espace, c'est vrai, la question est tout à fait pertinente parce que ces deux espaces, finalement, partagent des caractéristiques un peu identiques. Et notamment, par exemple, la difficulté à attribuer une action à quelqu'un. Ça, c'est vraiment, aussi bien dans le monde cyber, l'anonymat, finalement, des actions éventuellement hostiles est très, très difficile à lever. Et bien, de la même manière, dans l'espace, si vous n'avez pas les moyens d'associer un effet à une cause réelle et une responsabilité, eh bien, vous avez aussi un problème d'attribution, ce qu'on appelle. Et donc, on a un peu des problèmes similaires. On a aussi, et d'ailleurs j'ai oublié de le mentionner, le besoin de protéger aussi l'infrastructure au sol de l'espace contre les attaques cyber qui sont vues comme une menace directe.
On voit bien, il va y avoir un bouleversement au niveau de l'armée et on voit aussi quelque chose poindre. On parle d'un commandement sous autorité militaire, Xavier Pascaux. Jusqu'ici, l'espace, corrigez-moi si je me trompe, était dévolu surtout aux scientifiques. Ça veut dire quoi maintenant? Les scientifiques n'ont plus la main? Est-ce que c'est pas un peu risqué, ça?
Alors, je pense qu'il faut peut-être corriger cette vision qui peut être effectivement la vision qu'on a. Il y a toujours eu un espace militaire en France depuis le début des années 80. Et d'ailleurs, ce commandement de l'espace fait suite à un commandement qui existait, qu'on appelait le commandement interarmé de l'espace, un groupe d'une trentaine d'officiers qui là va monter en puissance et va rentrer sous le contrôle de l'armée de l'air qui deviendra l'armée de l'air et de l'espace d'ailleurs. Alors, il y a toujours eu un parallèle en fait. L'activité spatiale dans le jargon des spécialistes est duale, c'est-à-dire qu'il y a un aspect civil, le CNES et l'Agence spatiale française, qui effectivement met en œuvre les programmes scientifiques, c'est ce qu'on voit le plus. Mais depuis très longtemps, on a un programme plus réduit spatial militaire. Et finalement, quand vous regardez l'histoire des satellites, par exemple, eh bien, les satellites militaires et satellites civils partagent souvent la même plateforme, par exemple. Vous savez, les industriels qui fabriquent des satellites ou qui fabriquent même des lanceurs, fabriquent aussi des matériels militaires. Et donc, cette dualité, elle est là. Aujourd'hui, il n'y a rien de changé de ce point de vue-là. Donc, je pense que là, il faut se départir de cette idée. En revanche, c'est vrai que pour le coup, le versant militaire de l'activité spatiale est beaucoup plus visible.
Xavier Pascaux, une question de Suzanne, et on l'a un petit peu évoqué sur l'application France Inter. On a parlé de et l'Europe dans tout ça, mais la question c'est pourquoi que la France et pourquoi ça se passe pas au niveau européen?
Alors à nouveau, au risque de me répéter, finalement. Ben, l'espace, c'est une sorte de d'effet de loupe qu'on a sur un problème plus large, qui est le problème de la défense commune. Je rappelle que nous n'avons pas aujourd'hui de politique commune de défense, parce que là, c'est quelque chose qui touche aux intérêts de souveraineté des États membres. Et tant qu'on n'aura pas finalement, j'allais dire, un ministre européen de la défense, ce qui pourrait être le cas peut-être d'ici un futur plus ou moins lointain, eh bien, on aura de la difficulté à s'accorder sur des programmes communs, et ça reste très très lié finalement aux questions de souveraineté, voire aux questions de souveraineté industrielle et technologique. Parce que derrière tout ça, il y a aussi de l'indépendance technologique, il y a de l'indépendance industrielle, et effectivement, il y a de l'économique.
On va y venir aux opérateurs privés, mais on va prendre en ligne Denis. Bonjour Denis.
Oui, bonjour à la rédaction de France Inter. Voilà, j'aimerais poser une question, bon, d'ordre un peu philosophique. J'aimerais demander à votre intervenant, vu les épisodes répétés caniculaires, si le danger planétaire ne proviendrait pas justement de notre inconséquence de pauvres humains à massacrer notre planète. Alors, ma question, au lieu de vouloir dépenser 700 millions d'euros à une maîtrise hypothétique de l'espace de puissance étrangère qui viendrait supposément nous porter un problème, je pense plutôt qu'il faudrait consacrer toute notre énergie à faire face à ce dérèglement climatique qui met, pour le coup, l'humanité en danger.
Xavier Pascaud.
Oui, ça c'est une question effectivement, j'allais dire, qui est aussi vieille que l'activité spatiale, et d'une certaine manière on comprend tout à fait ce choix effectivement qui est à faire, qui est un vrai choix politique, qui est un débat à tenir. Alors en même temps, moi je serais peut-être moins que vous, j'opposerais les deux choses. On peut après s'interroger sur les chiffres, mais sachez que par exemple dans le domaine de la surveillance climatique, dans le domaine de la surveillance de l'environnement, finalement, qui ont été les premiers à tirer les signaux d'alarme en matière d'environnement planétaire? Ce sont les gens qui ont fait des programmes spatiaux, qui ont permis, par exemple, de voir qu'il y avait un trou dans la couche d'ozone. Sans moyens spatiaux, on ne l'aurait jamais vu. Tous ces investissements sont des investissements technologiques.
Ils ne sont pas neutres.
De nature duale, c'est pas neutre, bien sûr, mais qui sont des investissements qui permettent aujourd'hui, à vrai dire, on ne saurait pas finalement suivre l'état de santé de la planète sans les satellites nombreux désormais qui tournent autour de nos têtes. Et donc opposer, alors c'est les investissements dans la technologie spatiale au sens large, qui sont des investissements qui vont avoir des conséquences civiles, et puis là en l'occurrence des conséquences militaires, et je dirais la sauvegarde de la planète, c'est parfois un petit peu fausser le débat, parce que aujourd'hui effectivement l'espace ça sert beaucoup en fait à surveiller la planète.
L'espace aussi c'est un enjeu commercial pour les États.
Bien sûr, l'espace est un enjeu commercial. Notamment depuis quelques années, parce que l'espace fait partie intégrante de ce qu'on appelle le monde de l'information, le monde des technologies de l'information, le monde de l'Internet. On a vu de plus en plus d'acteurs nouveaux qui viennent, je dirais, de l'extérieur de la communauté spatiale. Ça, c'est tout à fait nouveau, qui viennent de l'Internet, s'intéresser à l'espace, parce que
Amazon,
ce sont des moyens de créer.
Elon Musk, tout
voilà,
ça.
Elon Musk, Jeff Bezos et d'autres. Et ils ont ce projet. Alors, les business models sont pas nécessairement tout à fait calés, on n'est pas tout à fait sûr de tout ça, mais on voit bien qu'il y a une poussée dans le sens de l'investissement dans des petits satellites qui font des réseaux d'information, etc. On ne sait pas trop où ça va, à vrai dire. C'est très, très américain, tout ça. Mais néanmoins, on voit bien, et ça c'est vrai depuis une vingtaine d'années, l'espace se dilue de plus en plus dans le monde de l'information et devient un élément, j'allais dire, sine qua non du fonctionnement des réseaux. Et on sait aujourd'hui, nos sociétés, de toute façon, fonctionnent sur la base de ces réseaux.
Xavier Pascaud, on le dit, il y a les opérateurs privés, il y a les scientifiques mêlés aux militaires. Ça fait beaucoup de monde, on a l'impression. Qui va avoir la main, au final, là-dessus, sur l'espace, véritablement? Parce que hier, Florence Parly, la ministre de la Défense, a parlé de Far West.
Donc, oui, alors moi je parlerais plutôt d'un ensemble distinct.
Difficile quand même de définir des zones dans l'espace.
Ah mais tout à fait. D'ailleurs, on ne peut pas le faire parce que par traité l'espace ne peut pas s'approprier une partie de l'espace. Il y a un traité de 67 qui en fait une sorte de bien commun finalement. Alors les Américains contestent un peu cette vision-là, ils disent que c'est pas tout à fait ça. Mais il y a quand même cette idée que aucun pays ne peut s'approprier l'espace. En particulier, les premières fois ont été lancés des satellites, et bien finalement, on s'est aperçu que là le droit de souveraineté aérienne, par exemple, ne jouait pas. Donc vous pouvez survoler un pays avec un satellite sans enfreindre les règles de la souveraineté aérienne. Ça, c'est tout à fait nouveau. Alors, où est-ce que l'espace commence et ne commence pas? Ça, c'est un débat de juristes. Alors, on dit à peu près 100 km. Au-dessus de 100 km, c'est l'espace. En dessous, c'est quand même l'espace aérien. Mais globalement, tout ça, finalement, se met en place avec des grandes puissances qui commencent parce qu'elles ont les technologies pour le faire, à vouloir exploiter l'espace ou à vouloir s'installer, à vouloir un peu contrôler ce qui se passe. Et ça, ça commence à créer des tensions depuis à peu près une quinzaine d'années. Tensions assez vives quand même entre les États-Unis d'un côté, par exemple, et la Russie et la Chine de l'autre.
Il y a un côté quand même effrayant dans tout ce que vous venez de nous raconter, d'une certaine manière, non ?
Ah bah, y a un côté, alors oui, alors il se trouve que quand on suit ça depuis plusieurs années, on voit cette évolution lente.
On se dit, bah non.
On se demande un petit peu où ça va parfois. Heureusement, il y a quand même... Alors, je dirais que d'une certaine manière, le fait que ces questions viennent à l'avant-scène, soit sous les projecteurs, font que les diplomaties sont plus actives qu'avant. Donc, du coup, les États sont moins indifférents et se saisissent de la question. Donc, on est encore dans des phases de discussion. Il ne faut pas perdre espoir. Le pire n'est pas certain. Mais on voit qu'effectivement, les choses sont de plus en plus tendues, avec en plus une inconnue supplémentaire, c'est-à-dire des acteurs privés qui maintenant arrivent en masse et vont constituer un nouvel écosystème de l'espace. Donc, aujourd'hui, une question essentielle, par exemple, c'est le rapport entre les gouvernements et ces acteurs privés. Comment tout ça se réorganise? Et c'est un peu le miroir de nos sociétés.
Et il faudra peut-être aussi une loi, à un moment donné, qui régira le
voilà,
tout.
Et ça, c'est en discussion également.
Merci beaucoup, Xavier Pascaud, directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, d'avoir été l'invité du Grand Entretien.